Un grand merci à l'équipe qui nous a accompagnés dans la première partie de ce culte. Et ce serait trop long de faire tous les rapprochements entre les chants, les paroles que nous venons de chanter et puis tout ce que nous allons voir dans le temps qui est devant nous avec cette prédication. Mais je vous laisserai résonner dans vos cœurs à chacun, chacune, ce qui a été dit, ce que nous dirons et ce qui a été chanté dans la première partie de ce culte. C'est un bel écho. Je vous invite à suivre la lecture du premier chapitre du livre de l'Apocalypse. La référence est affichée ici, on va lire les 20 premiers versets avec le texte qui s'affiche également. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et observent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je fais une courte pause dans la lecture. J'avais souhaité relire simplement déjà ces 8 premiers versets du livre que nous avions abordé lors de la précédente prédication, la première d'ailleurs prédication sur ce livre de l'Apocalypse, le 22 septembre, et qui servent d'introduction à l'ensemble du livre. Il présente le livre et la révélation qu'on y trouve. Apocalypse ne veut rien dire d'autre que révélation. C'est une révélation qui est donnée ici. Ces versets qui contiennent une salutation, parce que l'Apocalypse est une lettre adressée à des destinataires. On y trouve aussi une invitation à l'adoration de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés et également une annonce de première importance, le retour de Jésus-Christ. Et donc, le ton de l'Apocalypse étant ainsi donné, nous avons dans la suite de notre texte, les versets 9 à 20, le récit d'une vision majestueuse que je vous invite à lire maintenant. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et ceint d'une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après ces choses. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Une majestueuse vision. Avant de voir le contenu de la vision, Jean présente le cadre dans lequel cette vision est donnée, lui est donnée dans les versets 9 à 11. Et je cite un commentateur qui résume, je trouve, assez bien le contexte qui était celui de l'époque, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne. Je cite John MacArthur dans son commentaire sur l'Apocalypse. Sur le plan politique, les Romains jugeaient les chrétiens déloyaux, car ils refusaient de reconnaître César comme l'autorité suprême. Sur le plan religieux, on accusait publiquement les chrétiens d'être athées, parce qu'ils rejetaient le panthéon des dieux romains et qu'ils adoraient un dieu invisible et non une idole. Sur le plan social, les chrétiens, dont la plupart provenaient des classes populaires de la société, se faisait mépriser par l'aristocratie romaine. L'enseignement chrétien selon lequel tous les gens sont égaux, en référence à Galates 3:28 ou Colossiens 3, verset 11, menaçait de nuire à la structure hiérarchique de la société romaine et de dérober à l'élite son statut privilégié. Il avait également pour effet d'accroître chez l'aristocratie romaine la crainte d'une rébellion des esclaves. Et par conséquent, les églises de la fin du 1er siècle de notre ère chrétienne vivaient des temps difficiles. Il y avait un empereur assez radical à la tête, un certain Domitien. Il y avait des persécutions, alors le plus souvent encore localisées. Mais chaque chrétien pouvait s'attendre à tout moment à être inquiété à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte que la vision est donnée à Jean. Alors d'ailleurs, nous avons, avec notre texte aujourd'hui, davantage de renseignements sur l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Dans le verset 9, nous lisons « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus. » On voit ici, c'est avec une certaine humilité que Jean, pourtant apôtre, s'adresse à ses frères, à ses sœurs, en disant « Moi, Jean, votre frère. » Jean se trouve sur l'île de Patmos, une petite île à tout juste une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Éphèse, ici, vous l'avez là. Et Éphèse est représentée par le point numéro 1 dans la liste des sept églises. Une petite île, à peine 35 kilomètres carrés, donc on a vite fait le tour. Et Jean donne la raison de sa présence à Patmos, au verset 9, dans la suite du verset. « J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jean sous-entend qu'il connaît lui aussi la persécution pour sa foi en Jésus. Il se présente comme compagnon dans la persécution. Et c'est donc dans des conditions de vie très probablement dur, difficile, que l'apôtre reçoit cette révélation de l'Apocalypse. Il était âgé de quelques 90 ans au moment où il a reçu cette révélation. Et Jean est mis à l'écart par les Romains pour le limiter dans son influence. Mais mettre à l'écart un être humain, ce n'est pas mettre à l'écart Dieu. Car c'est précisément dans ce contexte d'oppression, de persécution, que Dieu va transmettre à Jean la révélation contenue dans le livre de l'Apocalypse, à commencer par cette vision dont nous allons parler ce matin. Le verset 10 dit que je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. La vision qui va suivre est transmise dans un contexte où les chrétiens se recueillaient et rendaient un culte à Dieu. Et c'est alors que Jean est en extase et qu'il reçoit la vision qui suit dans le passage. Dieu confie ici à Jean, à son apôtre Jean, le rôle de faire connaître le contenu de la révélation. Nous lisons ceci au verset, la fin du verset 10 et le verset 11. « J'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette et qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises dont nous avons les noms ici. » La révélation est adressée donc à ces sept églises et ces sept églises, elles ont bel et bien existé. Elles sont localisées ici dans la partie ouest de la Turquie actuelle et elles sont les premières concernées par ce qui leur est dit dans les chapitres 2 et 3 et sur lesquels nous reviendrons dans les sept prochaines prédications à raison d'une par église. Ces églises sont très probablement mentionnées dans l'ordre du circuit que le porteur du livre de l'Apocalypse avait probablement emprunté en partant d'Éphèse, en montant vers le nord jusqu'à Smyrne, puis Pergame tout au nord, et puis en redescendant vers le sud-est, en passant par Thyatire, puis Sardes, Philadelphie et enfin Laodicée. Le cadre est donc posé. L'oppression, l'épreuve, la persécution pour la foi en Jésus. Voici ce qu'il en est maintenant de la vision, à partir du verset 12. « Je me retournais pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Sept chandeliers d'or dont on apprend au verset 20 qu'ils représentent les sept églises qu'on vient de mentionner au verset 11. Très probablement des chandeliers à sept branches, comme il y avait le chandelier dans le tabernacle, avec la même description qui en est faite en Exode, chapitre 25, verset 31. Jean voit donc sept chandeliers, chacun représentant l'une des sept églises. Et comme nous l'avions vu la dernière fois, le chiffre 7 représente, symbolise, il y a beaucoup de symbolisme dans le livre de l'Apocalypse, symbolise la plénitude. Et donc, sept églises ici pour désigner, bien sûr, les sept premières églises qui ont bel et bien existé, on les voit sur la carte, mais aussi pour représenter, symboliser l'ensemble de l'Église de Dieu de tout temps et en tout lieu. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un semblable à un fils d'homme. De qui s'agit-il ? Nul doute, il s'agit d'un homme. Il a une tête, des cheveux, des yeux, des pieds, une voix, des mains, une bouche, un visage. Donc, vraisemblablement, un homme. Certains éléments permettent de dire que Jean a une vision, non pas seulement d'un homme, mais de Dieu. La voix, les grandes eaux, le feu, l'éclat du soleil, tous ces éléments qui sont présents bien des fois d'ailleurs dans l'Ancien Testament, quand il est question d'une manifestation de Dieu lui-même, de l'Éternel. Par exemple, l'épisode du buisson ardent en Exode 3. Ou encore toujours dans le livre de l'Exode, aux abords du mont Sinaï, quand l'Éternel s'apprête à transmettre la loi à Moïse et à son peuple. Dans le temple de Jérusalem, devant Ésaïe, en Ésaïe chapitre 6. Ou encore dans la prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 1 et au chapitre 10. Jean a donc une vision d'un homme qui est également Dieu, et je pense ne l'apprendre à personne d'entre nous, mais il s'agit ici de Jésus-Christ. Et plus précisément, Jean voit Jésus-Christ ressuscité. Au verset 18, nous lisons « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Une vision du Christ ressuscité. Dans la suite de notre texte, Jean mentionne huit parties du corps de Jésus, Jésus ressuscité du coup, et qui renseignent sur ce qui le caractérise. Et c'est pourquoi j'ai présenté le texte de cette manière-là, avec les huit phrases ici qui décrivent ces huit parties du corps de Jésus. et à chacune des parties un attribut de Jésus, quelque chose qui le caractérise dans tout son être. Tout d'abord, à la fin du verset 13, la poitrine. Il était vêtu d'une longue robe et ceint d'une ceinture d'or sur la poitrine. Jésus est représenté ici comme le grand prêtre dans l'Ancien Testament, dont on apprend au chapitre 28 de l'Exode, versets 4 et 5, qu'il a ces mêmes vêtements avec la même description qui en est faite ici. De même que les grands prêtres de l'Ancien Testament s'occupaient des lampes et des chandeliers dans le tabernacle et dans le temple, Jésus est représenté ici comme un grand prêtre qui s'occupe des chandeliers, donc des églises, dans la symbolique qui en est faite, en les corrigeant, en les exhortant, en les protégeant. Jésus est le grand prêtre par excellence, et en tant que tel, et on le sait par ailleurs dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est celui qui a offert une fois pour toutes le sacrifice pour expier nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Non seulement Jésus a offert le sacrifice, mais il est lui-même le sacrifice. Jésus-Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour son Église. Sa tête et ses cheveux, au verset 14, étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Une blancheur qui pourrait faire penser à la pureté, mais il est encore plus probable qu'elle fasse penser à la sagesse. Dans la pensée juive de l'époque, lorsqu'on mentionnait la blancheur des cheveux, c'était symboliquement pour signifier la sagesse de la personne aux cheveux blancs. Et il y a ici certainement aussi en tête la prophétie dans le livre de Daniel au chapitre 7, avec l'Ancien des Jours qui apparaît avec lui aussi des cheveux blancs. Et j'avais déjà parlé de cela lors de la première prédication. Daniel chapitre 7, verset 9. Ses yeux étaient comme une flamme de feu pour signifier que Jésus est omniscient, c'est-à-dire que rien n'échappe à sa vue. Il sait toutes choses, il voit tout. Tout est mis en lumière, rien ne lui est caché. Le fait que Jésus voit tout est à la fois un encouragement, mais aussi un avertissement. Un encouragement parce que Jésus voit les souffrances qui sont infligées à son peuple. Et il en demandera des comptes aux oppresseurs. Mais aussi un avertissement. Parce que c'est ce dont il sera question dans les chapitres 2 et 3, avec les lettres adressées à chacune des sept églises, où Jésus avertira les églises une à une, lui qui voit tout ce qui s'y passe, qui sait tout ce qui s'y vit, les bonnes choses comme les moins bonnes. Et nous y reviendrons les prochaines fois. Ses pieds étaient semblables à du bronze, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, pour signifier que Jésus est tout-puissant. Il incarne le roc, la stabilité, la solidité. Il n'a pas les pieds fragiles entremêlés d'argile comme la statue dans la vision de Daniel, chapitre 2, cette statue qui représentait les royaumes de la terre du temps de l'époque de Daniel. Une statue avec des pieds fragiles, avec du fer mêlé d'argile. Et d'ailleurs, on a bien vu ce que cette statue est devenue dans cette prophétie de Daniel, chapitre 2. Dans l'Antiquité, les rois s'asseyaient sur des trônes surélevés de telle sorte que ceux qui étaient jugés soient toujours en dessous des pieds du roi, plus bas que les pieds du roi, en signe de l'autorité, en signe de la toute-puissance du roi. Et Jésus a des pieds qui sont présentés ici de telle sorte qu'il pourra écraser ses ennemis sous ses pieds. Il en sera d'ailleurs question au chapitre 2, versets 18 et 27. Sa voix était comme la voix des grandes eaux, pour signifier que Jésus a une parole qui fait autorité. Jean connaît bien le bruit que font les grandes eaux, la mer agitée qui gronde, les vagues qui viennent se fracasser contre les falaises de cette île de Patmos où il était emprisonné. J'ai souvenir du bruit de l'eau sur les falaises d'Étretat, c'est quelque chose d'impressionnant qui s'impose dans le paysage. On ne peut pas ne pas les entendre. Dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel a une voix semblable au bruit de grandes eaux. Je cite ici, « Voici que la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et elle remplissait la terre. » Pardon, la terre remplissait de sa gloire. La voix de Jésus ici est représentée, représente une parole qui fait autorité, une parole divine. Jésus est le prophète par excellence, celui dont la parole fait parfaitement autorité. Après sa voix, sa main droite. Il avait dans sa main droite sept étoiles pour signifier que Jésus règne sur son Église, et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard quand nous aborderons le verset 20. Mais notons ici que Jésus est le roi par excellence. Lui qui descend, qui est de la descendance du roi David, le Messie promis, le roi annoncé, le roi attendu, le roi par excellence. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant pour signifier que Jésus est le juste juge. L'épée représente le jugement dans l'Ancien Testament. Plus exactement, l'exécution du jugement. Il en est question aussi dans Romains chapitre 13, cette épée qui exerce, qui accomplit le jugement. Et donc, par sa parole, Jésus exerce la justice. Il prononce son verdict. Il condamne ou bien il déclare juste. Et Jésus est juste dans son jugement, contrairement au jugement porté par les hommes qui, eux, ne le sont pas toujours. Rajoutons que sa parole est efficace. Il dit et la chose arrive. L'épée qui sort de sa bouche évoque l'efficacité de la parole, comme on le lit dans ce texte de Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. La bouche est maintenant, pour terminer, son visage. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, lorsqu'il brille de tout son éclat, on pourrait dire aussi, pour signifier que Jésus est majestueux, glorieux. Le visage de Jésus ressuscité est tellement brillant qu'on ne peut pas le regarder en face. Même si Jean avait pu avoir à l'époque ces lunettes qu'on met lorsqu'on veut regarder une éclipse de soleil, il n'aurait pas pu soutenir la majesté, la gloire de Jésus ressuscité. Quelle vision glorieuse et majestueuse ! Jésus-Christ, homme et Dieu, ressuscité dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Et à cette vue, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, dit le verset 17, dit Jean. Ce n'est pas la première fois que Jean vit quelque chose comme cela. Déjà dans le récit de la Transfiguration, où il est là avec Jésus et deux autres disciples, Jacques et Pierre, il voit le visage de Jésus transfiguré et les tous trois, Pierre, Jacques et Jean, tombèrent aussi le visage contre terre, en Matthieu 17, verset 6. Et dans les deux récits, celui de Matthieu 17 et également ici, Jésus pose sa main sur les disciples. Et en l'occurrence ici, il pose sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier ». Jésus pose sa main droite, c'est-à-dire la main qui représente la puissance. La droite, dans la Bible, représente la force, la puissance. Ça le rassure. N'aie pas peur, Jean. Je suis là. Jésus, ton Seigneur, ton Dieu. Jésus-Christ se présente comme le premier et le dernier, qui est une expression habituellement réservée à l'Éternel. L'Éternel seul pour désigner sa souveraineté sur l'histoire humaine du début jusqu'à la fin. Je cite par exemple dans le prophète Ésaïe au chapitre 44, Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. On retrouve cette même expression que dans notre texte ici d'Apocalypse 1, verset 17. C'est comme pour attester une fois de plus, comme si ça ne suffisait pas déjà, de la divinité de Jésus, qui est présentée ici et à bien d'autres fois, depuis qu'on en parle tout à l'heure, avec les mêmes traits que l'Éternel même dans l'Ancien Testament. Essayons de nous imaginer à la place de Jean. Essayons qu'il est rassurant pour Jean, qu'il est rassurant pour l'Église qui va recevoir cette révélation de savoir que Jésus est là. Il est vivant. Verset 18. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est vivant. Il est victorieux. On a chanté tout cela tout à l'heure, souvenez-vous. Il est victorieux sur la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. On l'a martelé dans nos chants tout à l'heure. Et Jésus a même une autorité sur le séjour des morts quand il dit dans le verset 18 « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts ». Cela sous-entend que personne n'entre au séjour des morts sans son contrôle. Jésus règne sur la mort. Et il a autorité aussi pour faire sortir qui il veut. Et par conséquent, il peut ressusciter, le moment venu, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont mis à mort pour leur foi, comme lui-même a été ressuscité. Quelle espérance vivante pour ses premiers destinataires. Et quelle espérance aussi pour nous aujourd'hui. C'est avec cette autorité que Jésus confie à Jean un rôle prophétique, un rôle de porte-parole. Jean est chargé de porter la parole que Jésus lui transmet dans cette révélation qu'est l'Apocalypse. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver après ces choses. Disons un mot sur le sens de ces trois expressions. L'expression tout d'abord, ce que tu as vu ici. Ce que tu as vu, ça se réfère à ce que Jean vient de voir là, c'est-à-dire cette vision de Jésus-Christ ressuscité dans les versets 9 à 20. L'expression « ce qui est », pour l'immense majorité des commentateurs, se réfère à la situation présente du temps de Jean pour les églises, c'est-à-dire en fait la description qui sera faite des églises dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Et puis, quant à l'expression « ce qui va arriver après ces choses », ça se réfère à des événements qui sont futurs et que l'on retrouve d'ailleurs à partir du chapitre 4 du livre. On a la même expression qu'ici. Je lis le verset 1 du chapitre 4. « Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après ces choses ». Sous-entendu, après les choses qui viennent d'être mentionnées dans les chapitres précédents, c'est-à-dire les lettres aux sept églises dans les chapitres 2 et 3. On a la même expression, le même contexte, une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler. On parle bien de la même chose ici qu'au verset 19 du chapitre 1. Concernant ces événements futurs, ces choses qui doivent arriver après ces choses-là, certains commentateurs les interprètent comme les événements qui précéderont immédiatement le retour de Jésus et qui sont donc futurs pour l'apôtre Jean, mais qui sont encore futurs pour nous aujourd'hui. D'autres commentateurs vont considérer qu'il s'agit d'événements qui sont tout simplement futurs, ou on pourrait dire postérieurs, au présent de l'apôtre Jean et au présent que connaissent les sept églises. Et donc, selon cette seconde interprétation, il s'agirait d'événements qui ont lieu depuis globalement 2000 ans et qui vont courir dans le temps jusqu'au retour de Jésus. Des événements qui couvrent en fait l'ensemble de l'histoire de l'Église entre la première venue de Jésus il y a quelques 2000 ans en arrière et son retour à venir. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces interprétations ici ou là et peut-être plus particulièrement en étude biblique. Quoi qu'il en soit, il me semble que ce verset 19 du chapitre 1 est constitutif de la structure de l'ensemble du livre de l'Apocalypse que je vous affiche ici. On a une introduction qu'on a méditée dessus le 22 septembre, à laquelle répond à la fin du livre une conclusion. Et entre les deux, il y a ce que Jean a vu avec la vision qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Il y a ce qui est la description des sept églises dans les chapitres 2 et 3. Et puis, ce qui va arriver après ces choses, donc la description d'événements futurs, à partir du chapitre 4 jusqu'au début du chapitre 22. La structure donc du livre de l'Apocalypse. Un dernier mot encore, avant de passer à quelques applications. Un mot sur le verset 20, où Jésus révèle à Jean la suite de l'interprétation de cette vision que Jean a eue. Je relis le verset 20. « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Nous avons déjà évoqué les sept chandeliers représentant les sept églises et plus largement l'ensemble de l'Église de Dieu. Qu'en est-il des sept étoiles qui sont les anges des sept églises ? Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'interprétations qui ont été proposées. Certains pensent que les anges ici sont des dirigeants humains, donc ce serait une manière de parler de dirigeants humains ou des représentants de ces églises qui seraient peut-être venus à Patmos pour ensuite être envoyés par Jean avec le message de l'Apocalypse et retourner dans chacun, dans l'une des églises mentionnées. Ou même ces anges pourraient représenter des églises personnifiées. Ça semble curieux que partout ailleurs dans le livre, près d'une soixantaine de fois, il est question d'anges. Systématiquement, il s'agit d'anges au sens premier du terme. Ce serait curieux qu'ici, il ne soit pas question d'anges dans le même sens du terme. Il me semble bien plutôt qu'il s'agit d'anges au sens premier, des anges, des êtres célestes, au service de Dieu et qu'il envoie aussi pour interagir ou protéger, agir avec son Église selon la volonté de Dieu. J'ai pris le temps d'analyser, d'expliquer le contenu de cette vision qu'a Jean, et encore je ne suis pas rentré dans tous les détails, il y a beaucoup d'autres choses et de liens, de parallèles que l'on pourrait faire avec l'Ancien Testament. Je ne sais pas ce que cette vision suscite en vous. Peut-être de l'émerveillement ? Peut-être de la contemplation, peut-être encore des questionnements, peut-être une certaine crainte ou d'autres sentiments encore, je ne sais pas. Il me semble en tout cas que cette vision qu'on peut vraiment décrire de majestueuse devrait susciter en nous une réponse qu'on peut décliner en quatre points à la lumière de ce qu'on trouve dans ce texte. Premièrement, quand nous prenons conscience du contenu de cette vision, et c'est pourquoi j'ai essayé de quand même de bien rentrer dans le sens de ce texte. Quand on prend conscience de ce que cela veut dire, de qui voit Jean dans cette vision, cela suscite en nous l'adoration et la louange pour qui est Jésus. Et ça nous renvoie à l'une ou l'autre chose qu'Alexis nous a mentionnée dans la première partie de ce culte avec ces auteurs, compositeurs qui ont cherché à faire des chants, des cantiques, des louanges, en pensant à l'une ou l'autre chose, à qui est Jésus, à qui est Dieu. Et cette vision montre Jésus-Christ dans toute sa gloire, avec une insistance, on l'a vu, sur sa divinité. Il est Dieu, reprenant des attributs qui étaient pourtant utilisés dans l'Ancien Testament à l'Éternel, à Dieu le Père, mais qui sont appliqués ici à Jésus, le Fils de Dieu. Il y a une insistance aussi sur le fait qu'il est victorieux. Il est mort, Jésus, mais il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et c'est bien une vision de Jésus ressuscité que Jean a dans ce texte. Il y a aussi une insistance sur l'une ou l'autre chose qui le caractérise. Le grand prêtre par excellence, le prophète par excellence, le roi par excellence, et nous l'avons chanté tout à l'heure. Parfaitement sage, omniscient, omnipotent, il peut tout faire. Il règne, il est souverain, il est le juste juge. Ne nous lassons pas de contempler notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans toute sa gloire, telle qu'il est présenté dans cette vision ici. Ce n'est pas un hasard si le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur cette vision, pour que l'Église de Jésus-Christ tourne son regard vers ce Seigneur-là. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nous louons, comme nous l'avons fait dans la première partie de ce culte. C'est ce Dieu-là que nous servons. Deuxièmement, cette vision de Jésus ressuscité suscite en nous la reconnaissance pour ce que fait Jésus. L'adoration pour qui est Jésus, la reconnaissance pour ce que fait Jésus. Jésus-Christ ressuscité ici se tient, on l'a vu, il se tient au milieu des chandeliers, c'est-à-dire au milieu des églises, ou encore on pourrait dire au milieu de son église. Il faut comprendre ici que Jésus protège, prend soin des églises. Il nous tient dans sa main droite. Il veille sur nous. La main droite, je le rappelle, désigne la force, la puissance. Jésus est aux commandes. Il règne sur son église. C'est une manière de dire que le règne de Jésus coexiste avec la souffrance et les épreuves que peuvent traverser son église. Et elles en traversent des souffrances, des épreuves, des difficultés. La vision qu'a Jean de Jésus tenant les sept étoiles dans sa main droite indique qu'il dispose d'une armée d'anges, au sens premier du terme, prête pour servir son Église, pour la protéger, pour agir selon la volonté de Jésus. Imaginez l'encouragement que c'est pour ceux et celles qui étaient persécutés mortellement pour leur foi ou qui étaient peut-être sur le point de perdre la vie. Imaginez l'encouragement que c'est de recevoir une telle révélation, une telle vision du Christ ressuscité, du Christ dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. On est à la fin du premier siècle. Les autres apôtres sont morts. Il n'en reste plus que l'apôtre Jean. Oui, mais en même temps, il est à Patmos. Mais Jésus, lui, il est là. Et il est ressuscité. Et il règne. Je l'ai déjà dit dans la prédication d'introduction et je le redis ici. Le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour nous embrouiller. Même si parfois c'est avec cet angle qu'on le lit et qu'on se dit « Oh là là, ça va être compliqué ». Le livre de l'Apocalypse est là pour nous encourager. Pour encourager l'Église de Jésus-Christ. Vous passez par l'épreuve, par la difficulté, par les persécutions, mais regardez, voici votre roi. Et il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est vivant, le voilà votre roi. Et cet encouragement ne vaut pas seulement pour les sept églises destinataires du livre de l'Apocalypse. L'encouragement vaut aussi jusqu'à nous aujourd'hui, où tant et tant d'églises passent par des épreuves. Alors, peut-être que ce n'est pas immédiatement ce à quoi on pense quand on pense à notre situation ici au 1249 chemin de la Combe des Oiseaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous arriver dessus avec des menaces et des pistolets, des je ne sais quoi, et mettre le feu aux locaux et autre chose. Ce n'est peut-être pas notre situation de persécution. Aujourd'hui, en tout cas. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, en France et ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on est solidaires, nous sommes solidaires de tant et tant d'églises qui aujourd'hui, en ce moment même, là, tout de suite, maintenant, traversent des épreuves, traversent des persécutions, comme ce pouvait être le cas pour ces églises de la fin du 1er siècle de notre ère, quelques 60 ans à peine après que Jésus soit retourné vers le Père. Nous sommes solidaires de cela. Ne nous lassons pas de dire à Dieu notre reconnaissance pour ce que Jésus fait pour son Église. Ne nous lassons pas non plus d'intercéder pour l'Église de Jésus-Christ qui souffre. Prions pour elle. Et remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour son Église. Il s'est donné pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Et il la soutient aujourd'hui encore. Il se tient au milieu de son Église. Troisièmement, cette vision suscite encore en nous la persévérance en Jésus. Et cette persévérance en Jésus, c'est l'expression même que nous avons dans le verset 9 que je relis ici. « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus. » Cette persévérance à laquelle on est invité à la lumière de cette vision que nous avons ici. Et les références à la persévérance dans le Nouveau Testament, il faudrait beaucoup de temps si on voulait toutes exhaustivement les présenter. Je n'en mentionne qu'une, qui fera écho d'ailleurs à l'une ou l'autre chose que nous avons vécue pas plus tard qu'à la Pentecôte dernière, en Hébreux 12, versets 1 et 2. Ainsi donc, nous aussi, étant entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec endurance la course qui nous est proposée, fixant les yeux sur Jésus, qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à la perfection. Lui qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'endurance ici, c'est le même mot en grec qui est utilisé pour le verset 1 ici, endurance. D'ailleurs, certaines traductions traduisent par persévérance que dans notre texte de Apocalypse 1, verset 9. Cette endurance, cette persévérance, c'est un élément indispensable de notre course dans la vie chrétienne. Notre Dieu veut que nous apprenions à persévérer. Il ne s'agit pas de dire oui le jour où on passe par les eaux du baptême. Il s'agit de dire oui, je m'engage et je veux persévérer à suivre Jésus. Même s'il en coûte la moquerie, même s'il en coûte que je sois « Ah, c'est lui le chrétien !» Et des choses comme ça, on les vit même en France, hein, des moqueries ou des mises à l'écart parce que nous sommes différents. C'est là qu'il faut persévérer. L'épreuve, d'une manière générale, et la persécution en particulier, font partie de la vie de disciples de Jésus. Les disciples de Jésus connaissent l'épreuve parce que notre identification à Jésus, elle est à la base même des souffrances et des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Et j'aime bien la formulation ici que nous avons dans le verset 9, la persévérance en Jésus. C'est dans notre union à Jésus-Christ que nous trouvons la force de persévérer. La persévérance, elle est en Jésus. Elle n'est pas dans nos petits bras musclés. Elle n'est pas dans notre volonté humaine. Elle est en Jésus. C'est parce qu'on a les yeux tournés vers lui. C'est parce qu'on sait où on va. C'est parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus, comme on le lit ici, qu'on trouve la force de persévérer, et en particulier quand il en coûte. Chers frères et sœurs, persévérons dans notre marche, dans notre course qu'est la vie chrétienne. Et pour terminer, cette vision de Jésus-Christ ressuscité dans Apocalypse 1 suscite en nous le témoignage de Jésus au monde. Nous l'avons vu, les sept chandeliers représentent les sept églises et plus largement l'Église de Dieu au sens universel du terme. Imaginez les chandeliers, C'est censé apporter la lumière. Ils ne sont pas là éteints sur le côté. Non, ils sont lumineux. Et Jésus, qui se tient au milieu des sept chandeliers, attise les lampes des chandeliers. En ce sens, l'Église a un rôle de briller dans le monde. Je lis deux textes. Un premier dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. « C'est vous qui êtes la lumière du monde, dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et puis un autre texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, qui fera écho à ce que nous avons vu récemment. Jésus s'approcha, juste avant de retourner vers le Père, il s'approche des disciples présents et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse ! Jésus l'a fait au moment de retourner vers le Père. Et quelques 60 ans plus tard, l'apôtre Jean a cette vision du Christ ressuscité qui se tient au milieu des églises pour dire qu'il est là, il veille sur son Église. Et il nous invite, cette vision nous invite à endosser ce rôle de témoin inhérent à notre statut de disciple de Jésus-Christ. À l'endosser ce rôle, même s'il en coûte. On peut mettre en parallèle la persévérance et ce rôle de témoin. Et je nous renvoie à ce que nous avons vu il y a deux semaines lors du culte de partage qui portait précisément sur cette thématique « Tous témoins dans la mission de Dieu ». Je termine juste par un mot de conclusion. Cette révélation de Apocalypse 1 nous fait voir ce que nous ne pouvons pas apercevoir depuis ici sur la terre. La réalité n'est pas limitée à ce que nous voyons depuis notre position terrestre. Ce qu'on voit n'est pas le plus important, n'est pas l'essentiel. Le plus important est dans ce que nous avons là, dans la parole de Dieu, dans cette vision du chapitre 1, versets 9 à 20 du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous invite donc à détourner nos yeux de la terre avec ses tribulations, ses souffrances, même si on les vit, et on n'est pas en train de les renier, elles sont là, on les vit et c'est bel et bien nous qui les vivons. Les tentations nombreuses que le monde offre, etc., pour finalement détourner nos yeux de là, pour finalement les tourner vers Jésus-Christ, pour porter notre attention sur le Christ, notre adoration, notre vie entière, notre persévérance, notre témoignage, tout cela tourné vers la personne de Jésus-Christ, lui qui est, comme nous l'avons vu, notre roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu souverain qui contrôle toutes choses, qui garde son Église, qui la protège et qui revient bientôt victorieux. Nous avons ici le plus beau message d'espérance qui soit. Et ce, quelles que soient les circonstances de notre vie. Même si j'ai conscience que ça coûte de dire cela, hein, nous vivons tous des choses plus ou moins difficiles dans notre vie au quotidien. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est un message d'espérance dont il nous faut nous saisir par la main droite, avec toute notre force, peut-être même qu'on aura besoin des deux mains, nous. S'en saisir pour en vivre et que ça nous porte et que ça nous aide à aller toujours plus en avant avec persévérance. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Apprenons à contempler le Seigneur Jésus-Christ dans chaque détail qui nous est donné de cette vision majestueuse du Christ ressuscité. Amen.